Les colloques du Collège de France.
Bon, je crois qu'on peut commencer. C'est à moi de présider cette session et on va commencer avec la communication de Laurent Colonna d'Estria sur le cas des maquettes de foire à Marie.
Donc, avant de commencer cette communication, je souhaiterais remercier très chaleureusement les organisateurs de ce colloque pour leur invitation et pour la qualité, donc là, les remerciements pour tous les participants concernant cette rencontre et la qualité vraiment des communications. C'est aussi un réel plaisir et un honneur de pouvoir présenter aujourd'hui quelques réflexions sur les maquettes de foie découvertes à Marie, et vous verrez que c'est avant tout des réflexions épigraphiques et philologiques. Mon intervention se déroulera en plusieurs temps. Donc 6 temps, ça fait beaucoup, mais je vais être assez bref sur certains points. Donc tout d'abord, introduction pour recontextualiser, qui fera écho justement à la communication que nous avons entendue sur le droit, puisqu'on a des structures protasapodoses également. Ça sera assez simple à exposer. Les maquettes de foie de Marie, assez rapidement, parce qu'il faut rentrer dans le vif du sujet. En 20 minutes, effectivement, beaucoup de choses à dire. Le contexte archéologique, vous verrez, toujours problématique. Puis, les maquettes de foie, la première édition. Revenir sur cette première édition vraiment exceptionnelle, justement, avant la Seconde Guerre mondiale. Les maquettes de foie, les études antérieures et un corpus hétérogène. J'ai sélectionné seulement quelques études des illustres prédécesseurs concernant ces maquettes de foie et vous verrez que c'est assez complexe comme dossier. Et enfin, une réévaluation du général au détail d'une part, puis une réévaluation avec des détails bien précis. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, concernant ce lot exceptionnel et unique des maquettes de foie ou modèles de foie, je souhaiterais revenir sur quelques éléments relatifs à la divination et à l'hépatoscopie, puisque ces objets en constituent les plus anciens témoignages matériels et écrits connus. Lorsqu'on évoque l'hépatoscopie, ou plus généralement la divination en Mésopotamie, on pense souvent aux grands traités divinatoires rédigés sur des tablettes bien rectangulaires, organisées avec des lignes écrites en cunéiforme. Ces œuvres se composent de séries de présages organisées selon une logique classificatoire en arborescence. Chaque présage suit une structure quasi identique. Il comprend d'abord une protase, c'est-à-dire la description du signe observé sur le foie, si la vésicule biliaire est comme ceci ou comme cela, vient ensuite la podose qui énonce l'oracle ou l'interprétation du présage. La rédaction de ces traités sur tablette d'argile conduisit justement les devins à élaborer une terminologie technique spécifique, filament, porte du palais, renforcement, doigt, je vais vous montrer ça dans quelques instants, destiné à décrire les anomalies, parce que là on est justement sur des traités qui décrivent. Donc décrire des anomalies des différentes parties du foie et pour l'hépatoscopie, plus volontiers les foies de mouton. Présage était conçu comme de véritables images plastiques mais rédigées. Donc là, vous avez un exemple de tablette avec un exemple d'éléments au sein de ce document. Si un filament s'étire, un mauvais rôdeur démon l'a frappé, il se tient près de sa tête, etc. etc. Donc j'ai pris d'autres éléments donc, que vous pouvez observer sur la diapositive. Donc s'il y a 2 portes du palais, 3 rognons, et si la vésicule entoure le côté gauche du doigt, présage de l'apis chaléen que Naram-Sin fit prisonnier. À droite de la diapositive, je vous ai mis justement un schéma reconstitué donc d'un foie avec les différentes parties. La terminologie technique évolue dans le temps. Parmi les plus anciens traités rédigés et connus, on peut signaler les tablettes de Tel Yelri et de Marie datées de la première moitié du XVIIIe siècle avant notre ère. Donc, vous avez ici une de ces tablettes, donc à Tel Yelri, si je prononce bien, je l'espère. Les énoncés étaient introduits par la conjonction temporelle « Uma » écrite « U4 » plus « Ma » « Lorsque ». Et à Marie, donc en revanche, on trouve l'emploi de 2 conjonctions « Uma » ou bien « Shuma ». Y a-t-il une hésitation entre une tournure temporelle ou une tournure conditionnelle? Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est la mise en place justement d'un vocabulaire technique. donc un vocabulaire technique qui va perdurer partiellement depuis cette époque vers des époques plus classiques jusqu'au premier millénaire. La transition entre, justement, on remonte un peu dans le temps, entre ces traités et les maquettes. Entre la seconde moitié du XIXe siècle et le début du XVIIIe siècle avant notre ère, avant la mise par écrit des grands traités divinatoires sur tablette, l'usage des modèles de foi en terre cuite constituait apparemment un support privilégié. Chacun d'eux représentait un présage particulier, on va voir que c'est beaucoup plus complexe pour les tablettes, pour les modèles de foi de Marie, et portait l'inscription de son interprétation. À ce jour, hormis quelques exemplaires provenant du sud de la Mésopotamie, le corpus le plus important, connu dans l'espace syro-mésopotamien de cette période, demeure celui des 32 maquettes de foi découvertes à Marie. Donc le corpus connu à ce jour, pour Marie, se compose de 32 maquettes. Elles furent retrouvées dans un ensemble, dans la salle 108 du Grand Palais Royal, lors de la campagne de fouilles de 1935-1936. Ce qui me permet justement d'aller vers le contexte archéologique. Le contexte archéologique précis, donc, comme je l'ai déjà énoncé, la salle 108, effectivement, donc, cette salle a également livré de nombreux documents administratifs et comptables d'après mes petites recherches, datant de l'époque amorite, donc avant la réforme de l'écriture, sous les règnes donc, de Semsiadou et Zimridim. Cependant, un élément a attiré mon attention, la présence de plusieurs textes rédigés en langue ourite. Parmi eux figurent notamment des incantations publiées par Thurot d'Angin en 1939. Certains des traits graphiques, grâce aux copies de Thurot d'Angin, suggèrent une rédaction datant de l'époque de Yardounim, en raison justement de cet élément graphique qui est le houdeux, ce signe houdeux, qui peut être mis en parallèle avec certains documents de l'époque de Yardoumlim. Il convient, concernant le contexte archéologique, néanmoins de rester prudent. Les méthodes de fouilles et d'enregistrement employées à l'époque ne permettent pas toujours de déterminer avec certitude si l'ensemble des documents, justement venant de cette salle, proviennent d'un même contexte précis. Enfin, il faut rappeler, je ne sais pas si c'est vraiment une information importante, il faut rappeler que à proximité de la salle 108 se trouve la salle 8, où a été découvert le célèbre disque de Yardoumlim, un monument essentiel pour l'histoire des débuts de la dynastie amorite à Marie. La publication de ces 32 maquettes ne s'est pas fait attendre. Marguerite Rutten, alors assistante de Georges Conteneau au Musée du Louvre, en livra une édition complète dans la Revue d'Assyriologie et d'Archéologie orientale de 1938. Aujourd'hui, 16 maquettes sont conservées au Musée du Louvre, 7 au Musée de Damas et 9 au Musée d'Alep. Concernant cette première édition, donc vous pourrez trouver dans son article un classement chronologique et un classement thématique, c'est-à-dire qu'en fonction justement des énoncés et de la mention des noms de rois, elle a classé chronologiquement. Donc pour la révision et pour de nouvelles études, nous devons absolument nommer justement ces maquettes sous l'intitulé Rutten 1, 2, 3, 4, etc. Ne pas oublier bien évidemment les numéros de musée, puisque comme vous allez le voir dans quelques instants, une maquette peut contenir plusieurs énoncés. Ce classement, effectivement, chronologique, et dans une certaine mesure aussi thématique dans la seconde partie des maquettes qu'elle a publiées. Alors qu'elle avait clairement distingué plusieurs formulaires, c'est-à-dire, quand je dis formulaire, c'est-à-dire expressions qui introduisent les énoncés. Dans son article, elle a également mentionné ceci. Donc, nos documents se signalent par quelques caractéristiques. Concernant le formulaire, on ne dit pas si telle partie du foie présente telle anomalie, il se produira tel événement. Mais au contraire, lorsque tel événement s'est produit ou se produira, le foie se présentera ainsi. Donc elle avait clairement vu les questions de formulaire. Puis le deuxième point qui est l'objet de ma communication aujourd'hui, c'est l'emploi de la valeur la plus rare de certains signes. Et donc, bien évidemment, on est avant la Seconde Guerre mondiale, les premiers documents de Marie sortent, sont publiés, et il faut encore tenir compte du fait que Marie était située sur la lisière du domaine où l'écriture cunéiforme était maniée avec maîtrise. Et donc là, effectivement, à cette époque, comme on l'a déjà entendu hier, Marie est en périphérie et donc cela excuse dans une certaine mesure l'emploi de ces signes un peu étranges. Contrairement au texte de plus basse époque, absence de logogramme. Alors, c'est vrai pour, j'allais dire 90, mais 90%, nous avons également quelques logogrammes. Bien évidemment, ce corpus est exceptionnel et on va avoir assez rapidement deux approches. Une approche purement philologique et une approche un peu plus anthropologique. Je citerai que quelques travaux, notamment ceux de Gelb, qui justement propose une date, comme Marguerite Rutten, date postérieure à Ishma Dagan, puisque justement dans les énoncés, Ishma Dagan est mentionné, des maquettes justement pas strictement contemporaines, des orthographes différentes. On a Chou opposé à Chout, Ibga A3 à Ibdegaa, Issa de Gaan opposé à Isha Gaan, etc. Puis l'emploi de certains signes avec telle valeur, c'est-à-dire din pour ti 2, din pour tim. Et l'usage du signe ou 2 pour la conjonction de coordination et etc. Je vous en encourage à regarder ces travaux. Puis il est revenu sur ses maquettes, notamment avec un article concernant Marie et la civilisation de Kish, où il a intégré les maquettes de Foi dans son étude avec l'ARM 19, donc les textes Shakanaku. Et un élément est intéressant, contrairement aux documents de l'ARM 19 assez cohérents, les énoncés exposent, donc des Foi, une très grande diversité. De même, Snell a fait la même chose, mais lui, il a proposé un tableau, et ça m'a inspiré pour la suite. Alors, le tableau est assez simple, vous allez voir la suite avec mes tableaux, parce qu'on peut aller plus loin. Puis, Jean-Marie Durand a également étudié ses maquettes de Foi. Les documents édités par Marguerite Rutten sont d'époque mêlée et présentent un état de langue non homogène. Donc, du coup, assez hétérogène. Puis, des approches historiques et anthropologiques, je citerai que deux études, celle de Jan Valkemeyer, justement, qui a mis en parallèle les formes de Foi, les énoncés, revus à la lumière des traités. Puis, l'étude de Jean-Jacques Glasner, justement, le retour sur les questions de formulaire des pratiques et la mise en place du savoir et matériel lié à la divination, justement, pour cette époque. Donc, du général au détail, le début d'une réévaluation. C'est-à-dire qu'il faut reprendre l'ensemble et la matérialité. Donc, nous avons aujourd'hui la chance, justement, nous avons donc la chance d'avoir numérisé, c'est-à-dire ces maquettes de Foi sont toutes numérisées, accessibles en ligne et donc numérisées en 3D. Donc, pour mieux observer cette matérialité, donc une réévaluation commence par un général vers un détail. Vous avez l'adresse en dessous. Dans cette réévaluation du général au détail, essayez de voir si en plus des énoncés, on peut observer des annotations. C'est-à-dire la transcription du présage sur l'objet demeure assez rare. Comme je vous l'ai dit, protase, apodose dans les traités. Ici, en fait, la protase, c'est justement la maquette. Donc sur la maquette Rutten 13 figure l'expression « renforcement de la grande porte » qui signale une particularité sur la partie du Foi nommée grande porte et qui sera nommée plus tard porte du palais dans les traités. Donc nous avons quelques exemplaires avec ces annotations. Donc ici sur une autre maquette, on a « le vent est dans la porte » qui exprime un présage, est adjoint donc à la mention « ceci dans des traces de coups ». Alors effectivement, philologiquement, vous allez voir que c'est assez redoutable pour certaines séquences. Et donc, ceci sont des traces de coups, un filament est arraché, qui complètent probablement une figure, l'élément sur la maquette. Je vous ai mis un détail précis, donc photo qui a été prise c'est-à-dire durant les années 2000, juste avant les événements en Syrie, qui permet de revoir certains éléments. Donc, du général au détail. Deuxième point, c'est les formulaires. Et donc, effectivement, là, je m'appuie sur les travaux des collègues, la protase et la podose, d'une part, pour les traités, mais surtout pour les maquettes. On va avoir plusieurs groupes. Le groupe Hamout, présage, état construit, événement, le verbe état accompli, donc telle configuration du viscère, et le présage d'un tel corrélé à tel événement. 13 énoncés. Puis, on va avoir les énoncés introduits par Inoumi, lorsque. Et donc là, on aura plutôt « lorsque tel événement se produisit, le viscère eut tel aspect ». Trois énoncés. Puis avec « Shuma, si ». Et donc, « si tel événement se produit, le viscère aura tel aspect ». 19 énoncés. Et enfin, 5 énoncés sans éléments qui introduit l'énoncé à proprement parler. On a la présence également de différents oracles ou énoncés sur une même maquette. Et donc là, ça devient intéressant, puisque vous avez un objet, on va dire objet archéologique, et deux énoncés appartenant à deux groupes différents. C'est une observation importante, vous pouvez les repérer avec les flèches. Donc le tableau classe justement les présages selon les énoncés, et comme vous pouvez le voir, par exemple, on va prendre Rutten 18, vous avez sur une même maquette deux énoncés différents, l'un commençant par Hamout, le groupe 1, et l'autre par Schumma, le groupe 3. Ou encore, justement, ici, vous avez une même maquette, mais avec trois énoncés appartenant au même groupe, donc Schumma. Et donc, est-il possible de corréler, justement, le contenu de ces, c'est-à-dire de ces énoncés entre eux au niveau sémantique par rapport au, à la maquette? Effectivement, de temps en temps, on a un peu plus de chance, c'est notamment les flèches en vert sur le tableau. En fait, la thématique est assez proche. Un contenu très très orienté. Les énoncés concernent principalement des situations touchant l'exercice du pouvoir, accession au trône, soulèvement, opération militaire ou chute de souverain, et reflètent les interrogations et les choix auxquels étaient confrontés les dirigeants, les souverains et les rois. Et donc, quand on regarde encore une fois les énoncés, cela est mentionné donc avec les flèches en noir, c'est les flèches en noir et montrent, exposent les énoncés avec les noms de souverains. Flèche en rouge, le seul énoncé avec le terme Shakanaku, c'est-à-dire le titre du dirigeant avant l'époque amorite. La question du mélange, de l'hétérogénéité, ces maquettes ne témoigneraient-elles pas à la fois de circulation du savoir divinatoire et dans certains cas de son actualisation au fil du temps? Donc j'ai essayé, je vais faire quelques propositions, essayer de comprendre cet ensemble hétérogène, une somme de détails à revoir et à mettre en série du point de vue paléographique, orthographique, de la grammaire, de la dialectologie, selon des groupes ou des ensembles cohérents. Bon, les groupes et les ensembles cohérents, vous les avez clairement identifiés, c'est justement avec cette expression, ce mot qui introduit. Mais attention, parce que dans le groupe 1, vous avez plusieurs, j'avais dit, donc 10 plus 1, 1 plus 3, donc 13 énoncés. Mais en fait, quand on les décompose, on a 10 à Mu'ut, 1 à Mutum et 2 à 12 ou 4, donc, ou 4 Mu'ut. Pour le groupe 2, 3 Inumi, 17 Schumma et 2 Schumma. Donc en fait, les orthographes vont être prises en compte et sont importantes. Je vous donne voilà, un exemple d'une fiche. Donc vous avez la maquette avec la photo issue des archives André Parot, qui vraiment aujourd'hui m'ont permis de réévaluer certains détails, une translittération, une traduction, un essai de normalisation grammaticale pour essayer de comparer justement des points de grammaire et des annotations au niveau paléographique, épigraphique, dialectologique. Donc on a ici les signes sadeux et qui semblent confondus. C'est une information intéressante. On a le pronom relatif, chat qui écrit sadeux. Puis certaines annotations pour chaque fois. Alors, je vous promets, on ne va pas faire les 40 oracles et les 32 fois en 20 minutes. Donc, un autre exemple qui est assez intéressant. Là, on est toujours dans le groupe 1. Donc, pronom suffixe, féminin singulier, écrit si pour chi, classique chez les Shakanaku. On a normalement, dans la dialectologie et l'usage langue et écriture à l'époque des Shakanaku, un subjonctif qui est un morphème 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de marque, comme on peut le voir sur les autres maquettes du groupe 1. Mais ici, on a apparemment un subjonctif en « i ». Pour ceux qui connaissent l'acadien, c'est un peu un problème. En fait, il faut peut-être admettre, et c'est l'hypothèse, justement, c'est ce que j'avance au fur et à mesure des observations, que ce verbe a été réinterprété et qu'il fallait bien une voyelle pour un subjonctif. C'est une hypothèse isolée qui, finalement, isolée n'est pas pertinente. Mais vous allez voir qu'à travers un tableau de mise en série, permet de dessiner autre chose. Dans ce groupe Hamout, on a justement A12 Mu'ut. La valeur A du signe Oud est documentée par la documentation scolaire sud-mésopotamienne. Par ailleurs, quand on regarde avec le détail, on a Char Luk T2. Donc, comme je vous ai dit, T2 n'est pas d'usage, on va dire, mariotte, Shakanaku, notamment. Et surtout, le signe Sha n'est pas employé normalement. On a justement le signe Sa2. Et donc, là, on peut également mettre en place une autre hypothèse, c'est justement un élément qui a été peut-être compilé, recopié et updaté dans une certaine mesure. Concernant les photos, je serai assez bref, l'ensemble des photos des maquettes de foi apporte aussi son lot de nouveautés et de détails. Là, des lignes qui ont été oubliées dans l'édition, et ce qui permet de mieux segmenter les énoncés. Donc c'est un énoncé de la famille, justement, du groupe 1B, Hamout. Tout ceci peut être rassemblé sur ce type de tableau, un peu indigeste, je l'admets, mais avec le code couleur permet de faire ressortir certains éléments. Et conclusion du groupe 1, les noms des souverains du sud de la Mésopotamie sont bien présents, donc probablement des énoncés qui viennent du sud de la Mésopotamie. Par contre, une absence ou une marque zéro du subjonctif, plutôt un usage local. Ou encore, justement, la confusion entre ça deux et qui suggère une rédaction post-réforme de l'écriture, comme le groupe 1B, avec une sorte d'énoncé updaté. Au niveau des pronoms, aussi, on a chou, chachi et shoot, plutôt un usage chakanaku, mais qui partage en fait un fond avec du paléo-acadien, voire justement de l'acadien d'Ourthroi, parce que shoot est un élément absent de la dialectologie chakanaku, etc., etc. Donc le groupe suivant, Inumi, donc même schéma, même méthodologie, cela a pris un peu de temps. Vous avez donc là, plus facile, trois maquettes, et donc ces trois maquettes sont assez intéressantes, commençant par Inumi, un subjonctif en « ou bien en « una », et surtout, concernant l'orthographe Inumi, qu'on peut mettre en parallèle avec de l'acadien d'Ourthroi ou du Early Old Babylonian, plutôt peut-être de la Diyala, mais le subjonctif en Ouna est bien attesté en acadien d'Ourthroi. Mais donc, en raison de l'énoncé combiné, c'est-à-dire Inumi combiné à d'autres éléments graphiques, dialectologiques, il est possible que ce soit un lot qui soit arrivé et avec quelques petits changements également. Et on peut, bien évidemment, réévaluer aussi le groupe Shuma, 17 énoncés. Là, je vous garantis, c'est un peu plus complexe. Mais dans ces énoncés donc, pris de façon individuelle, on se rend compte que certains, justement, présentent des caractéristiques dites locales, c'est-à-dire de Marie de l'époque des Chakanaku, mais encore une fois, avec des éléments updatés, post-réforme de l'écriture. Petite nouveauté, la question des signes sur d'autres signes. C'est-à-dire qu'avec de nouvelles photos, on a pu se rendre compte que certains signes recouvrent des signes effacés ou bien commencés et qui ne sont pas complètement présents. Donc c'est des petits détails qui participent à la composition de cette proposition. Un tableau qui permet de remettre en perspective l'ensemble des éléments vus et revus, toujours avec le même code couleur selon dialectologie, orthographe, grammaire, qui permet d'évaluer justement ce groupe. Mais ce groupe est beaucoup plus complexe. Il y a effectivement des éléments sud-mésopotamiens qui ont été updatés à un moment donné, réévalués. Et tout ça, la question qui peut être posée, est-ce que ça a été fait par un scribe, voire à un moment donné? Je pense qu'il y a plusieurs filtres à mettre en place. Dans ce groupe Shuma, il y a cependant deux énoncés en Shuma à noter. Petit élément, le signe séparateur. En Chakanaku, on trouve des signes séparateurs. La découverte grâce à ces photos, c'est le signe séparateur. Et donc là, c'est un bon élément aussi de faire remonter à l'époque justement des Chakanaku. Mais comme je viens de le dire également, il y a des éléments qui suggèrent à un moment donné que ces énoncés aient été, on va dire, updaté à certains moments. Le groupe 4 est sans introduction, on va dire sans terme qui introduit, et surtout ce groupe 4 se trouve justement le présage où on a le signe séparateur, mais surtout la mention du chakanaku. Donc dans son songe, le chakanaku, et là j'ai un petit problème, parce que pris seul, on peut traduire, mais il faut le recontextualiser avec les autres maquettes, où on attend plutôt un inaccompli ou un statif avec un sens présent, futur. Et donc la traduction usuelle, c'est « il a vu ». Moi, j'ai proposé « j'ai vu » avec, au lieu de « amour »,« yamour », c'est « j'ai vu ». Et donc, moi, je proposais « yamour », il a vu, parce que les verbes première aleph dans le dialecte chakanaku, c'est une forme en « ya », mais ça ne correspond pas, finalement, aux énoncés des autres maquettes. En conclusion, n'est pas exclu qu'à la fin du 19e siècle et au début du 18e siècle, une entreprise de compilation ait continué à rassembler sur des maquettes de foi, des traditions divinatoires d'origine diverse. Certains des énoncés pourraient déjà avoir incorporé des révisions ou des actualisations antérieures. Le processus même de reproduction, de compilation, aurait alors favorisé l'introduction de variations orthographiques, dialectales, voire interprétatives dans la formulation de certains énoncés. Cette proposition, et c'est effectivement une proposition, permettrait d'expliquer la présence au sein de ce corpus d'énoncés présentant justement des traits linguistiques et graphiques relevant de traditions diverses, dont certaines trouvent leur origine dans le sud de la Mésopotamie à époque beaucoup plus ancienne. Au regard de ces indices et mis en série, j'espère vous avoir convaincu, la datation de ces maquettes pourrait être postérieure à la réforme de l'écriture de Yardounim. Leur réalisation pourrait ainsi être contemporaine du règne de Yardoumlim et s'inscrire dans une initiative portée par le pouvoir royal dans un contexte de reconstruction, de consolidation et de légitimation du royaume. Merci pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr. Les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.